franceinter.fr.
Presque 10 000 enfants naissent chaque année en France grâce à l'ICSI, une technique d'aide à la procréation inventée en Belgique dans les années 90 et surtout proposée en cas de problème de qualité du sperme du père. Une étude dévoilée la semaine dernière menée par la même équipe belge montre que les jeunes hommes nés par cette méthode souffrent des mêmes problèmes de qualité de sperme que leur père et pourraient avoir des difficultés à avoir des enfants. Jacques Testard, vous êtes en ligne avec nous pour en parler. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche émérite à l'INSERM, président d'honneur de la fondation Sens Citoyenne. Vous êtes également celui qui a introduit l'ICSI en France en 1994. Est-ce que vous êtes étonné aujourd'hui par les résultats obtenus par vos collègues belges ?
Absolument pas. Non, non. D'ailleurs, je l'avais écrit dès le début qu'il était évident qu'on aurait des bébés qui ressemblent à leur papa. Et quand le papa a un problème de sperme qu'on arrive finalement à dépasser en injectant un spermatozoïde directement dans l'ovule, il y a des bonnes chances que s'il y a une anomalie génétique chez le père, on la retrouve chez les enfants.
Pour comprendre pourquoi ce trouble perdure, expliquez-nous un petit peu plus en détail comment marche l'ICSI.
Bien, c'est assez simple. On prépare, on peut soit préparer le sperme de façon conventionnelle, comme on fait pour une fécondation in vitro habituelle, c'est-à-dire par lavage des spermatozoïdes, puis on en prend un certain nombre qu'on met autour de, qu'on injecte, on en prend un dans une aiguille de verre qu'on injecte dans l'ovule. Mais on peut aussi, quand dans les cas plus graves, on peut prélever les spermatozoïdes directement chez l'homme, dans l'épididyme ou les canaux déférents, c'est-à-dire on peut aller chercher des spermatozoïdes plus haut avant qu'ils soient émis par l'homme.
Pour quel type de problème aujourd'hui on propose l'ICSI à des couples ? Seulement pour des problèmes de qualité du sperme ?
Non, 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 et là je suis pas d'accord. Non, quand c'est pour des problèmes de qualité du sperme, ça me paraît tout à fait raisonnable, mais aujourd'hui, à peu près les deux tiers des fécondations in vitro sont faites de cette façon, par ICSI. Et il y a même des pays où c'est 100%. Donc c'est un abus technique, la technique fait rêver, je sais pas, fait miroiter, puis c'est plus simple, quand on dispose de tout l'attirail, de faire à tout le monde la même chose. C'est comme du travail à la chaîne. Donc il y a une tentation pour les praticiens de faire de l'ICSI à tout le monde. Et ça, c'est peut-être pas bon, parce que, en revanche, s'il n'est pas étonnant qu'on ait des enfants avec des anomalies du sperme, on pourrait être surpris un jour d'avoir d'autres problèmes associés au stress qu'on impose finalement aux gamètes en faisant cette manipulation qui est quand même plus lourde qu'une fécondation in vitro classique.
Est-ce que ça veut dire, pour bien comprendre, que ces hommes nés d'une ICSI vont devoir forcément recourir à une ICSI pour avoir des enfants eux aussi ?
Ah bah c'est très vraisemblable. Si leurs parents étaient vraiment stériles à cause d'un problème de sperme, et que ce problème est transmis, oui, ça va être la même chose. Avec une ICSI qui va être un peu allégée, comme toutes les technologies, la FIV aujourd'hui est quand même beaucoup moins lourde qu'il y a 20 ans, mais malgré tout, c'est pas drôle.
Mmh. Et Jacques Testard, ça pose un problème éthique quand même de remettre entièrement une lignée d'hommes aux mains de techniques d'aide à la procréation, comme ça, sur des générations entières.
Oui, c'est ce que j'avais appelé la stérilité héréditaire.
Oui, c'est ça, oui.
Effectivement, oui, il y a un peu de ça. Mais il faut pas se tromper, on fait sûrement la même chose avec des femmes aussi. Il y a aussi des femmes qui sont stériles pour des questions génétiques. Alors, on identifie beaucoup moins bien ces problèmes-là parce qu'il est plus difficile de faire des recherches sur l'ovule, qui est une cellule très rare, que les spermatozoïdes qu'on a en abondance. Mais malgré tout, il y a sûrement des cas de stérilité génétique chez la femme qu'on ignore et qu'on va transmettre à leur petite fille. Donc, le truc, c'est de savoir si on veut se garantir de tout. À ce moment-là, il faut plus faire de médecine.
Est-ce que vous pensez qu'un jour on pourra guérir ce trouble de la qualité du sperme là ?
Bah si c'est un trouble, parce que il y a plusieurs types de troubles, hein. Tout ne vient pas de la génétique. Il y a de plus en plus des troubles de l'environnement.
Je parlais des troubles génétiques en particulier.
Alors les troubles génétiques, je vois mal comment on peut les guérir, sauf à faire des OGM humains. Et je souhaite pas. Je crois qu'il est plus sage quand même de traiter ces individus pour leur donner une descendance, quitte à ce qu'il y ait là-dedans une proportion d'enfants qui colportent la même pathologie, mais qui n'est pas dramatique. Vous savez, quand on expliquait aux parents, je me souviens, il y a 20 ans, on disait aux gens, voilà, vous avez un problème de sperme, on peut le résoudre avec l'ICSI, voilà comment ça marche, mais il faut prévoir que votre enfant risque d'avoir la même anomalie. Donc on fait des enfants qui ressemblent à leur papa, et les gens, évidemment, acceptaient très bien, puisque c'est pas une anomalie dramatique, c'est pas un handicap dans la vie. Simplement, ça empêche de faire des enfants quand on est comme ça. Bah, on les aide à faire des enfants et on pourra continuer à le faire.
Jacques Testard, l'étude concerne 54 jeunes hommes. C'est très peu. Vous pensez qu'il faut poursuivre justement les recherches pour confirmer les résultats là aujourd'hui ?
On peut le faire parce que ça coûte pas grand chose et c'est pas pénible pour les gens, c'est pas une recherche à risque. On peut le faire, mais tout ce qu'on fera, c'est peut-être affiner la proportion effectivement de stérilité héréditaire parmi les stérilités masculines, pour lesquelles on n'a souvent pas d'explication, mais on peut suspecter qu'il y ait une cause génétique. Donc on pourra dire, c'est dans un tiers des cas, c'est bon, ça nous avancera pas beaucoup parce que les gens continueront de demander l'ICSI.
Merci beaucoup Jacques Testard en tout cas pour votre éclairage. Dans quelques jours va sortir un nouvel ouvrage et vous serez bientôt l'invité de la Tête au Carré. On aura l'occasion d'en reparler ici même
avec
à ce micro.
Plaisir.
À bientôt Jacques Testard. Merci
alors,
beaucoup.
Au revoir.
Et à demain Axel.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'exoplanète la plus proche de la Terre, Proxima B, pourrait avoir un océan à sa surface. Cette planète tellurique d'1,3 masse solaire est sous le feu de la recherche depuis sa découverte en août dernier par le télescope Hubble et de nouveaux travaux suggèrent qu'elle pourrait être recouverte d'eau liquide. L'un des scénarios envisagés concernant sa masse, l'estime recouverte d'un immense océan profond de 200 km et représentant 50% de sa masse totale. Retenez le nom de cette drôle de plante, la Serrupegia. Ses fleurs dégagent l'odeur d'une abeille en péril. Des chercheurs de Salzbourg en Autriche ont découvert que la Serrupegia émettait cette odeur très particulière pour attirer à elle de toutes petites mouches friandes de cadavres d'abeilles, le tout pour s'en servir comme pollinisateur. La mouche, attirée par l'odeur de son plat favori, est rapidement piégée par la fleur dans une poche en forme de parapluie, et en se débattant, elle participe à la pollinisation de la plante. C'est la première fois qu'on découvre des stratégies de pollinisation complexes utilisant des espèces carnivores comme vecteurs. Et puis pour terminer en image, on vous propose de découvrir l'intérieur d'une maison de Pompéi juste avant l'éruption du Vésuve en l'an 79. Une reconstitution en 3D, en couleurs magnifiques, proposée par des archéologues de l'université de Lund en Suède. En combinant des données de l'archéologie traditionnelle avec celles de la technologie 3D, ils sont parvenus à restituer en détail la maison d'un des plus riches banquiers de Pompéi. Vases, fresques et peintures murales y sont représentées, telles qu'elles étaient certainement à l'époque et renseignées par les découvertes actuelles. Cette vidéo est à voir sur la page Facebook de La Tête au Carré.